Le journal, présenté par Adrien Toffolet.
Bonjour. Un scrutin décisif au Chili, second tour des présidentielles qui pourrait faire basculer le pays à droite. Pour la gauche, tout est dans les mains du Frente Amplio, sorte de Podemos chilien, nous expliquera notre correspondante Justine Fontaine. L'extrême droite est forte en Europe, alors elle s'organise à Prague ce week-end. L'exemple de l'Autriche est de bon augure, selon Marine Le Pen, que vous entendrez dans un instant. Durcissement de l'exécutif envers les migrants, un projet de réforme est en préparation, virage encore plus répressif qui risque de diviser cette fois-ci au sein de la majorité. Et puis, comme chaque semaine à la fin de cette édition, la face cachée du globe présentée par Nabila Hamel. C'est un scrutin qui peut potentiellement changer radicalement le Chili. Les élections présidentielles, second tour aujourd'hui, et deux options pour les électeurs. Le candidat de droite, Sébastien Piñera, ou bien le candidat de centre-gauche, Alejandro Guillet, sur la ligne de la présidente sortante, Michelle Bachelet. Une élection extrêmement serrée. Le résultat dépendra notamment des électeurs du Frente Amplio, le Front élargi, une sorte de Podemos, version chilienne, petite coalition de gauche, née il y a moins d'un an. Elle a déjà créé la surprise en obtenant 20% des suffrages au premier tour, et en envoyant 21 élus au Congrès. À Santiago du Chili, Justine Fontaine est allée à la rencontre de leurs électeurs.
Rodrigo Pessoa, 29 ans, vend des gâteaux dans un jardin public de la capitale. Il cherche un travail et fait partie des nombreux jeunes qui ont voté pour le Frente Amplio le mois dernier.
Avant, je votais, mais j'étais résigné. En fait, j'allais voter pour éviter que le candidat que j'aimais le moins soit élu. Mais le Frente Amplio m'a réconcilié avec la politique.
Gratuité de l'enseignement supérieur, fin du système de retraite privé géré par des fonds de pension, ou encore assemblée constituante pour en finir avec la constitution actuelle approuvée sous la dictature du général Pinochet. Voici les propositions les plus emblématiques de cette coalition née de la vague de mouvements sociaux qu'a connu le Chili ces dernières années. Et malgré son opposition claire à l'ancien président de droite, Sébastien Piñera, l'ex-candidate du Frente Amplio, Beatriz Sánchez, ne donne pas de consigne de vote.
Nous pensons qu'à tout point de vue, Sébastien Piñera serait synonyme d'un retour en arrière et même d'un risque pour le pays. Mais on ne va pas appeler à voter pour quelqu'un en particulier parce que nous croyons que chacun des Chiliens et des Chiliennes est maître de son vote.
Elle-même votera pour le candidat de centre-gauche, Alejandro Guillet, arrivé juste devant elle au premier tour. Les électeurs que nous avons rencontrés en feront de même, mais sans conviction. Selon Kenneth Bunker, professeur de sciences politiques à l'Université centrale de Santiago, le report des voix ne sera pas automatique et il sera difficile à Alejandro Guillet de l'emporter.
Il a fait quelques efforts pour attirer les électeurs du Frente Amplio, mais il me semble que pour le moment, il ne comprend pas à quel point ils sont nécessaires pour obtenir le nombre de voix suffisant.
Quel que soit le résultat, le Frente Amplio a déjà annoncé qu'il ne participerait pas au gouvernement, mais la coalition espère bien s'installer durablement dans le paysage politique chilien.
Justine Fontaine, la grosse inconnue de ce second tour, c'est l'abstention. Elle pourrait aussi atteindre de nouveaux records pour une élection présidentielle. Au premier tour, le mois dernier, plus de 51% des Chiliens étaient restés chez eux. Au Pakistan, cet attentat suicide ce matin. Deux kamikazes armés s'en sont pris à une église méthodiste en plein service religieux. Ça s'est passé à Quetta, dans le sud-ouest du pays, une région très instable. Ils ont ouvert le feu sur les fidèles avant d'essuyer les assauts de la police et des militaires, puis de se faire exploser à l'aide de bombes. Au moins 8 personnes ont été tuées, 45 blessées d'après les autorités. En Israël, une grève générale paralyse le pays depuis quelques heures. Un mouvement d'ampleur en solidarité avec les employés de Teva. Teva, c'est cette marque israélienne de médicaments génériques qui doit supprimer 14 000 emplois dans le monde en 2 ans, c'est-à-dire un quart de ses effectifs. En réaction, le principal syndicat de l'État hébreu a appelé à une grève ce matin à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, mais aussi dans les ports, les banques et les ministères. Des manifestations sont annoncées aujourd'hui aussi à Jérusalem. En proie à de sérieuses difficultés financières, le numéro 1 mondial des médicaments génériques a déclaré que ce plan de restructuration était crucial. Les explications de notre correspondante à Jérusalem, Marine Vlaovic.
Cela faisait déjà plusieurs mois que l'on savait Teva en proie à des difficultés financières. Cet été, le géant mondial du médicament avait annoncé un premier plan d'économie avec la suppression de 7000 postes et la fermeture d'une quinzaine d'usines dans le monde. Un plan insuffisant pour la nouvelle direction qui a décidé de doubler les suppressions d'emplois. Objectif, économiser 3 milliards de dollars en 2 ans pour commencer à résorber sa dette de 35 milliards de dollars. La cause de cette dette abyssale, la chute du prix des génériques, mais aussi des acquisitions hasardeuses et la concurrence du marché américain. Si le laboratoire n'a pas donné le décompte des emplois affectés par pays, l'on sait qu'en Israël, 1750 emplois sont concernés sur les 14 000 supprimés dans le monde. Les sites de production ainsi que les centres de recherche aux États-Unis et en Europe seront donc particulièrement affectés. Dans l'État hébreu, cette annonce fait l'effet d'une douche froide, car le laboratoire créé en 1901 à Jérusalem est le fleuron de l'industrie pharmaceutique israélienne. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, doit rencontrer la semaine prochaine la direction de Teva pour la convaincre de réduire le nombre des licenciements.
Marine Vlaovic, l'extrême droite n'est pas encore en position de force en Europe, mais depuis quelques années, force est de constater qu'elle prend une place de plus en plus importante. Le temps est donc à l'organisation. Plusieurs partis d'extrême droite, dont le Front National, sont réunis à Prague ce week-end. L'objectif est de trouver une stratégie commune en vue des élections européennes de 2019. Il faut pouvoir bénéficier des conséquences du Brexit, de la crise migratoire, tout comme des victoires électorales de plus en plus nombreuses des formations d'extrême droite. Dernier exemple en date, son entrée en Autriche, dans le gouvernement du conservateur Sébastien Kurz, entrée fracassante avec des ministères clés. Tout ceci est de bon augure, comme mente Marine Le Pen depuis Prague.
L'intégralité de ces succès électoraux se succèdent sont une très bonne nouvelle. Non seulement pour nous, puisque nous sommes des partenaires depuis déjà un certain nombre d'années, mais c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe. En réalité, ces succès électoraux démontrent ce que je disais tout à l'heure, à savoir que l'avenir est aux nations. L'avenir est à une Europe des peuples, à une Europe des coopérations. Chaque élection démontre une forme de rejet de l'Union européenne et la montée en puissance de pays qui aujourd'hui contestent de manière claire l'Union européenne, s'opposent à elle, je crois, est un élément véritablement historique. D'autres suivront, car dans un certain nombre de pays, la résistance à l'Union européenne s'organise, hein, on le voit. Et je pense que les élections européennes peuvent apporter un véritable bouleversement de la donne politique en Europe et peut-être même permettre à ceux qui s'opposent à l'Union européenne et qui sont des défenseurs de l'Europe des nations et des libertés d'être majoritaires dans le cadre de la future Assemblée. Croyez-moi, ça changerait évidemment beaucoup de choses.
Des propos recueillis par Alexis Rosenzweig. C'est le prochain Big Bang législatif préparé par l'exécutif. Le projet de loi immigration-asile déposé par Gérard Collomb au Conseil d'État. Réduction des délais de traitement, des demandes d'asile, mais dans le même temps augmentation des expulsions. Tout cela confirme la position particulièrement stricte, pour ne pas dire répressive, du gouvernement en la matière. Le 12 décembre dernier, le ministre de l'Intérieur a par exemple adopté une circulaire qui encourage les contrôles dans les centres d'hébergement d'urgence pour sans-abri. Pour les associations d'aide au SDF, une ligne rouge est franchie et même au sein de la majorité, on craint la première fracture avec le projet de loi. Des voix s'élèvent déjà, comme celle de Stéphane Gemani, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, sous l'étiquette Cap 21 Société Civile LREM.
Mis à part la déception personnelle qui est due forcément au travail qui a été produit pendant la campagne, c'est une réalité qui n'est pas acceptable. Ce droit inconditionnel d'accueil et d'hébergement ne doit pas être substitué parce que on a un déficit chronique et historique de l'accueil, quel qu'il soit. Beaucoup de personnes sont en train de se replier sur elles-mêmes en nous expliquant que on n'est pas capable d'accueillir ou d'héberger nos propres populations. Alors pourquoi héberger des populations étrangères? Ce qui est complètement inacceptable, inentendable. Ces gens sont dans des situations, quelles qu'ils soient, que ce soit des territoriaux ou que ce soit des demandeurs d'asile, ce sont des gens qui sont cabossés par une histoire. On ne peut pas exclure les gens en faisant des petites magouilles comme ça entre ministères de façon à se dire on est dans l'incapacité matérielle ou humaine de gérer ces situations, donc opérons l'exclusion et demandons aux associations de faire un sale boulot que nous-mêmes, nous ne sommes pas plus en capacité de faire. C'est une fuite en avant qui n'est pas acceptable. Donc oui, il y a une déception, mais il y a surtout, plus que la déception, la volonté d'interpeller au plus haut de l'État de façon à ce que cette mesure ne rentre pas ou en tout cas soit reconsidérée.
Alors, des propos recueillis par Ilan Malka, crise migratoire, défi européen, ce sera justement demain l'objet d'une journée spéciale sur France Culture. Il est 12h39, l'heure de retrouver Nabila Hamel pour la face cachée du Globe. Bonjour Nabila.
Bonjour Adrien. Au moins 8605 personnes ont été tuées ou blessées par des mines antipersonnelles en 2016. Dans son dernier rapport, l'organisation Handicap International a relevé une augmentation de 150% en 3 ans, due à des bilans particulièrement lourds dans des pays comme l'Afghanistan, le Yémen, la Syrie, la Libye et l'Ukraine. Non seulement il nous a coûté un siège précieux au Sénat, dans un des États les plus républicains du pays, mais il a empêtré le président des États-Unis dans ce fiasco. La politique n'a pas besoin de ce genre de personnes. Parole de sénateur républicain, très remonté depuis mardi contre Stéphane Bannon. Il reproche aux confidents et ex-conseillers de Donald Trump d'avoir soutenu jusqu'au bout le candidat très controversé Roy Moore, dont la défaite au profit d'un démocrate en Alabama a réduit la marge de manœuvre du Old Party au minimum, puisqu'il lui reste 51 sièges sur 100. Un coup de projecteur aujourd'hui sur le Burundi, pays en crise politique depuis avril 2015, lorsque le président Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, a tout fait pour s'y maintenir jusqu'à 2020. Aujourd'hui, il s'agit même d'aller au-delà, soit jusqu'à 2034, puisqu'une campagne électorale destinée à organiser un nouveau référendum constitutionnel s'est ouverte mardi. David Gakunzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un écrivain et journaliste burundais. C'est quasiment une présidence à vie qui est en train de se préparer férocement à Bujumbura.
Dès le départ, il s'agissait d'assassiner définitivement la démocratie et d'aller vers une présidence à vie. On est face à un président qui n'a qu'un seul projet, c'est celui de mourir au pouvoir, hein, comme il le dit d'ailleurs lui-même. C'est une vision, je dirais, patrimoniale de la politique. C'est une tragédie parce qu'il est prêt pour accomplir ce projet-là à faire tout, y compris à commettre des crimes contre l'humanité, comme l'ont déjà montré plusieurs des organisations des droits de l'homme. Mais aussi, il y a eu l'ouverture d'enquête de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité au Burundi.
Est-ce que l'on pourrait parler de la situation aujourd'hui au Burundi, où on en est à au moins 1200 morts depuis le début de la crise politique?
Les 1200 morts, c'est les morts dont on peut localiser plus ou moins les corps, mais on est à plus de 3000 morts, on est à plus de 5000 disparus. C'est une situation terrifiante où on a eu un langage qui appelait à l'extermination des opposants et aussi des Tutsis, hein, un langage qui rappelait le génocide du Rwanda. Grâce aux pressions internationales, grâce aux médias, on a empêché ce projet politique de se faire dans le huis clos le plus total, mais les massacres, les assassinats continuent. Tous les jours, on continue de ramasser des cadavres. La situation est toujours très dramatique.
Merci à vous, David Gakunzi. Je rappelle que vous êtes un intellectuel burundais et que vous êtes dans l'opposition également.
Merci à vous.
Le Népal vient d'élire le premier parlement de la nouvelle République fédérale, moment très attendu car 11 ans après la chute de la monarchie et des années d'instabilité, les responsables politiques n'arrivaient toujours pas à s'entendre sur une nouvelle constitution et Sébastien Farsi, la première élection qu'a connue ce petit état himalayen, a vu la victoire d'une alliance de gauche composée de communistes et de maoïstes. Elle rafle l'essentiel des sièges, autant au niveau fédéral que provincial.
Le Parti communiste est le grand vainqueur de cette élection historique. Il rafle le tiers des sièges à la Chambre basse et la moitié de ceux des assemblées provinciales. Grâce à son alliance avec les maoïstes, il obtient une majorité absolue au Parlement, ce qui devrait lui permettre de former un gouvernement stable. Cette union rouge terrasse ainsi le Parti du Congrès, qui domine pourtant la vie politique népalaise depuis un quart de siècle. Cela indique le fort désir de changement des habitants, frustrés par la paralysie de la vie politique depuis la chute de la monarchie en 2006 et l'importante corruption qui en découle. L'économie népalaise stagne, ce qui pousse la jeunesse à partir travailler à l'étranger, à tel point que le pays est sous perfusion. Les fonds renvoyés par ces travailleurs émigrés représentent 30% du PIB népalais. La victoire des communistes maoïstes devrait également entraîner un repositionnement diplomatique. Katmandou pourrait s'éloigner de l'Inde, son frère hindou et allié naturel, pour se rapprocher de la Chine. Pékin essaye en effet depuis des années d'accroître son influence dans ce précaré indien et a promis la construction de nombreuses infrastructures pour cela, ce qui séduit naturellement les politiciens népalais. Cette stratégie a déjà été appliquée au Sri Lanka et a poussé Colombo à s'endetter au-delà de ses moyens pour finalement offrir à la Chine la gestion d'un port stratégique.
Le Liban va lancer ses premières explorations d'hydrocarbures au large de la Méditerranée. Beyrouth vient d'approuver l'offre d'un consortium qui allie le français Total, l'italien Eni et le russe Novatek. Le gouvernement de Saad Hariri en avait fait sa priorité depuis 2016, alors que d'immenses gisements de gaz naturel sous-marin avaient été découverts dans les eaux territoriales du Liban, d'Israël et de Chypre. La découverte de gaz et de pétrole pourrait aider le pays du Cèdre, miné par des difficultés économiques et en proie à de graves pénuries d'électricité. À dimanche prochain.
Merci Nabil Hamel. À dimanche prochain, la météo nuageuse sur la majeure partie du pays, à l'exception du sud-est, de la pluie sur la Manche et de l'Aquitaine au Jura, côté température entre 2 et 11 degrés en moyenne.